Bienvenue à tous et merci d'être ici ce soir pour d'être venus aussi nombreux pour la conférence de Monsieur Denis Rioux que nous avons le plaisir d'accueillir. Professeur émérite d'histoire de l'art contemporain à l'université Paris 1 Sorbonne. Les recherches de Monsieur Rioux se sont plutôt consacrées à l'art de la modernité et des avant-gardes dans les divers courants jusqu'aux années 60-70. À ce propos, il a écrit beaucoup d'articles et il a publié beaucoup de notices dans les catalogues d'expositions. Il a également publié plusieurs ouvrages, Les écrivains devant l'impressionnisme, paru chez Macula, Yves Klein, l'aventure monochrome en 2006, Constantin Brancusi, l'hélice et l'oiseau aux éditions La Scala, ou Scala, je ne sais plus, Qu'est-ce que l'art moderne en 2012 chez Gallimard. Et toujours chez Gallimard, son dernier ouvrage, Les œuvres immobiles, dans la collection, c'est ça, Art et artistes. Pour la conférence de ce soir, Monsieur Rioux va nous parler d'un artiste très connu. D'ailleurs, il avait été exposé, ses œuvres avaient été exposées ici même à Bordeaux, au CAPC, il y a peut-être une vingtaine d'années, en présence de l'artiste. Et pour le titre de la conférence, je vous le livre de suite, Roman Opalka, la peinture comme ascèse. Monsieur Rioux, il me reste à vous remercier infiniment d'être ici ce soir parmi nous. Merci.
Et à nouveau, et je suis très heureux d'être là, et je suis très heureux aussi que vous soyez venus pour un sujet peut-être un peu aventureux. Je vais donc vous parler de l'œuvre de Roman Opalka, qui est un artiste à la fois né en France, mais polonais, d'origine polonaise. Je vous parlerai de tout cela tout à l'heure. Mais avant de véritablement commencer cette conférence, je vais vous projeter court extrait d'un film qui a été réalisé en 2011 par Didier Morin. Ce film a été montré seulement en deux occasions. La dernière était à Venise au moment du vernissage de la Biennale cette année. Et Didier Morin a eu la gentillesse pour cette conférence de me confier quelques extraits de ce film et de m'autoriser à vous les montrer. Je pensais que commencer par voir l'artiste et voir l'artiste tout à fait à la fin de sa vie, ça nous mettrait dans une certaine ambiance. Donc il y aura trois extraits au cours de cette conférence. Chaque extrait, c'est à peu près une minute et demie. Hein. Il n'y a pas quatre minutes de film dans ce que je vais faire. Mais laissons donc l'artiste arriver dans son atelier et commencer son travail.
Pięć, milionów, sześćset, siedem tysięcy, czterysta. Pięć milionów sześć.
ce film a été tourné donc en 2011, c'est-à-dire près de nous, et c'est aussi le dernier tableau, le dernier détail que Roman Opalka a peint. Didier Morin avait l'intention de faire un film sur la peinture d'un seul tableau, les différentes séances de travail. Finalement, c'est devenu un document tout à fait extraordinaire. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais revenir maintenant pour qu'on comprenne ce qu'on a vu. Je vais revenir sur les débuts de Roman Opalka. Et je vais commencer par planter le décor, si l'on peut dire. Donc, Roman Opalka est en Pologne. Dans les années 50, il fait ses études en Pologne, donc c'est la Pologne d'après la guerre et c'est la Pologne évidemment communiste. Et puis il reste en Pologne et il travaille comme un artiste qui a reçu une formation traditionnelle, académique, et qui évidemment dans cette Pologne communiste louche un peu vers des ailleurs plus accueillants. Il faut quand même nuancer un peu les choses. À l'époque de Gomulka, la Pologne n'est pas un pays totalement fermé à toute innovation artistique. Bien au contraire, comme vous le savez, il y a les fameux arts graphiques avec les affiches de cinéma si célèbres, le théâtre avec Tadeusz Kantor, le cinéma avec Vajda. Bref, nous ne sommes pas en Russie. Et en plus, Staline est mort en 1953 et le rapport Khrouchtchev a été divulgué au 20e congrès en 1956. Donc on est dans un milieu qui est à la fois oppressant, mais dans lequel le réalisme socialiste, qui lui règne en maître en Russie, n'est qu'un des aspects des pratiques artistiques de cette Pologne. Alors, comment Roman Opalka, au début des années 60, un jeune artiste, va-t-il tirer son épingle du jeu ? Eh bien, d'abord, il est un excellent graveur, et vous voyez là une de ses gravures, qui compose bien avec le système, si on peut dire, puisque là, on a une gravure qui est un sujet qui devrait plaire aux autorités du pays. Peut-être que si on regardait la gravure plus en détail, mais nous n'avons pas le temps là, on verrait que c'est peut-être un tout petit peu moins simple. Et puis, grâce à ces gravures, il obtient la possibilité d'exposer dans des manifestations à l'étranger, et du bloc de l'Est, mais aussi dans l'Europe de l'Ouest. Et il obtient des prix, ce qui lui permet aussi de sortir du pays, ce qui lui confère une certaine réputation et donc lui donne la possibilité de faire un peu autre chose. Et autre chose, ce sont par exemple ces peintures qui précèdent immédiatement le projet, le programme de Roman Opalka, qui sont les chronomes, et vous en voyez un là. Et l'ambition de Roman Opalka avec ces chronomes, c'est font de donner à voir le temps. Ce n'est évidemment pas le premier artiste à s'y être essayé, mais c'était extrêmement périlleux tout de même pour un artiste, parce que toute la réflexion sur l'art a tendu à opposer les arts de l'espace, comme la peinture par exemple, qui se regarde en un seul instant, et les arts du temps, comme la poésie ou le théâtre, qui ont besoin d'une certaine durée pour être perçus. Donc, comment condenser cette durée, la donner à voir ? Les chronomes étaient une solution, puisque chaque petite touche de peinture blanche sur ce fond gris foncé témoigne de l'instant qui a été passé pour le poser, ce point. Mais quelque chose ne va pas et on ne comprend pas très bien, évidemment. Le temps n'est pas très visible et Roman Opalka réfléchit et pense il manque quelque chose, il manque quelque chose. Et à un certain moment, il a ce qu'il a appelé lui-même son Eureka, j'ai trouvé. On est en 1965, donc voyez, en 1967, il fait encore des gravures. Ça va. Mais le projet, lui, démarre en 1965. En 1965, Roman Opalka a 34 ans. C'est un jeune artiste, mais ce n'est plus tout à fait un jeune homme non plus. Donc il va s'engager dans ce qu'il va nommer lui-même un projet de vie. C'est d'ailleurs un peu ce qui a motivé le titre de cette conférence, La peinture comme ascèse, parce que peinture et vie sont intimement mêlées, c'est-à-dire que sa vie va dépendre en grande partie du développement de son œuvre, ou l'inverse. Il va falloir vivre de telle manière que l'œuvre puisse se développer. Et donc, il va imaginer que si l'on arrivait à donner à voir et à lire la flèche du temps, le fait que ça se déroule, ça passe d'un point à un autre et ça continue infiniment, alors le temps serait sans doute davantage perceptible. Et son projet, ça va être, et vous voyez, vous voyez un détail du premier détail, son projet, ça va être précisément d'inscrire d'abord sur une toile, puis sur une autre, puis encore une autre, et puis jusqu'à la fin de ses jours, d'inscrire, en les transcrivant en nombre, ce déroulement temporel. Et il commence tout à fait en haut et tout à fait à gauche d'une toile qui est grande. Vous avez vu les toiles précédemment devant lesquelles il travaille. Elles sont toutes du même format. Elles font 1,95 m de haut, un peu plus grandes que lui en tout cas. Et donc, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et quand il arrive à un nombre tout à fait en bas de sa toile, il la laisse et il continue à compter sur la toile suivante en reprenant, par exemple, à partir de 22 632, 22 633 sur la nouvelle toile, et il continue de cette manière. Ainsi, nous pouvons effectivement lire, voir le déroulement du temps. Un deuxième phénomène, là, vous le remarquez visuellement, se mêle à cela, qui est très important pour l'idée qu'on peut se faire quand on regarde ces peintures du projet que même Opalka tente de nous donner à voir, c'est la relative disparition de ces chiffres qui constituent les nombres avec ces moments où, vous allez comprendre, c'est tout simple, il recharge le pinceau de blanc, un tout petit pinceau, zéro, il le recharge de blanc, donc il y a davantage de matière qui se dépose, donc c'est beaucoup plus clair sur le fond foncé. Et puis petit à petit, le pinceau se décharge, et donc ça devient de plus en plus clair, jusqu'à ce que ça soit à la limite de la lisibilité, et il recharge à nouveau son pinceau, et vous avez cet effet de petites vaguelettes qui sont très attirants. Esthétiquement, c'est impressionnant, intriguant. Alors, je dis vaguelette parce qu'on pense effectivement à ça, aux vagues sur la plage, sur le sable. Ça peut être aussi quelque chose qui fait penser à la respiration, hein, au souffle comme ça, et puis on recommence, on inspire, et puis on continue, et puis encore, et encore. Alors, Roman Opalka commence à peindre en 1965, quand il a mis au point son idée, commence à peindre un premier tableau, un premier détail. Et comme je vous ai dit, c'est un homme jeune, mais ça n'est plus tout à fait un jeune homme. C'est-à-dire qu'il a un peu d'expérience et il comprend que ce projet, il doit au moins pendant un certain temps le conserver secret. Même pour ses amis les plus proches. Alors, pourquoi secret ? Eh bien, tout simplement, pour être suffisamment engagé dans le travail, pour que le travail s'affermisse suffisamment, pour que cet engagement devienne irréversible. Il craignait, à juste titre sans doute, il craignait d'être découragé, au fond, avant même d'avoir terminé le premier détail. Il craignait d'être découragé par les avis négatifs qui ne manqueraient pas d'être exprimés, puisque, notamment, tout le monde pense à cette époque, enfin, quand on a commencé à comprendre ce qu'il était en train de faire, mais comment est-ce possible de consacrer sa vie à un projet pareil? Quelle épouvantable répétition, quel ennui, mais n'est-ce pas même suicidaire, se demandaient les amis. Alors, il a cette prudence de ne révéler son projet que quand il est véritablement engagé dedans et qu'il y a déjà plusieurs tableaux. Par parenthèse, et pour faire comprendre, je crois que certains d'entre vous ont pu être confrontés à cela, les jeunes parents, quelquefois, répugnent à annoncer à l'avance le prénom choisi pour le garçon ou pour la fille, de peur d'être découragés par l'entourage. J'en connais des comme ça, j'en connais aussi qui ont été découragés. Et c'est une sorte de prudence. Et bien, c'est exactement cela que Romain Opalka avait fait. Il avait déjà parfaitement compris. Alors, il y a un autre aspect, évidemment, qu'il faut souligner, c'est que Romain Opalka réalise cela à Varsovie, il est donc dans cette Pologne communiste. Et ça n'est pas du tout un hasard si son Eureka rencontre la numération. Parce que, comme vous le savez sans doute, dans tous les régimes totalitaires, les nombres, les listes sont éminemment présents. Beaucoup, beaucoup de noms, beaucoup de statistiques, les individus même comme numéros. On m'a raconté, pas lui, pas Romain Opalka, mais des gens qui ont vécu là-bas, qui ont raconté que, par exemple, dans les classes, on pouvait plutôt que de donner le nom ou le prénom ou les deux de l'élève que l'on souhaitait interroger, dire 34, parce qu'il était sur la chaise 34 dans la salle et que quand on est assis là, on s'asseyait toujours sur la même chaise et que du coup, on était le 34 ou le 42 ou le 25. Alors, tout ça marque, évidemment, on est dans un climat dans lequel il faut songer à ce contexte. Et donc, on a une œuvre qui va commencer à se développer et je vous la montre en situation dans une galerie bien plus tard, puisque on le verra tout à l'heure, là les fonds sont beaucoup plus clairs. Mais je la montre ainsi parce que, d'abord, on comprend tout de suite que sur ce document, c'est dans la galerie Yvon Lambert, là, en 2010. On comprend tout de suite que les tableaux sont effectivement de même dimension et qu'ils sont plus grands que nous. Ils font 190 par 135 de large. Et puis, ils vont devenir de plus en plus clairs. Là, on voit qu'ils se sont éclairés déjà. Alors, est-ce véritablement un projet répétitif? La première, sans doute, observation que Romain Opalka a réalisée quand il a commencé à peindre, écrire, mais peindre, c'est au pinceau, avec la peinture, c'est un projet pictural. Les premiers nombres, c'est sans doute pas quand il a écrit 22, ça fait 2 fois 2, mais enfin bon, on n'y pense pas beaucoup, peut-être pas non plus 333, peut-être déjà à 4444, parce que ça fait 4-4. Et puis ensuite, de 4444, si vous y pensez un peu, ça va nous mener à 55 555, et c'est quand même assez loin. Et dès que vous avez ça en tête, vous voyez qu'il y a des étapes comme ça. Alors que les premières étapes, évidemment, c'est très rapide, mais ces étapes, elles vont en quelque sorte nourrir le projet qui, par ailleurs, va accepter, tout en restant ce qu'il est fondamentalement, qui va accepter des modifications en fonction des circonstances et aussi des désirs de l'artiste d'aller encore plus loin dans cette assaise picturale, même si le terme est de moi et si je ne suis pas sûr qu'il l'aurait véritablement accepté. Toujours est-il que Romana Opalka a compris très tôt que les 666 666 étaient atteignables assez rapidement, mais qu'en revanche, les 7 777 777, alors là, il fallait du temps, là. Il fallait vraiment voir. Et alors, il pensait que c'était atteignable. Je vous le dis tout de suite, il ne l'a pas atteint, cela, pour des raisons diverses, mais c'était atteignable. C'est-à-dire, si on calculait combien elle en peignait, en sachant aussi que peut-être en vieillissant, elle peindrait un peu moins vite, etc., c'était possible. Mais en revanche, les 88 888, etc., eux, non, c'est tout à fait hors d'atteinte. Et il a réalisé une œuvre que je vous montre ici, avec cette pyramide, j'espère que vous voyez bien, tout en haut il y a le 1, puis les 2, 2, 333, etc. Et puis une ligne de lumière qui barre les 7, parce que précisément le 7 est atteignable, mais c'est aussi la limite de ce qu'un homme, en une vie, quand il réalise cette numération de façon raisonnable, c'est-à-dire en travaillant beaucoup quand même, en ne faisant pas grand-chose d'autre, mais enfin en vivant aussi. C'est ce qu'il peut atteindre, c'est ce qu'il peut penser atteindre, mais que les 8-8 ne sont pas atteignables pour l'homme. Alors c'est très vertigineux aussi parce qu'aujourd'hui nous vivons dans une société, j'ai parlé des nombres, dans la société communiste, hein, la société d'avant la chute du mur, mais depuis aujourd'hui, nous vivons dans une société dans laquelle nous jonglons avec des nombres tout le temps. Nous avons des calculettes, tout ça est complètement désincarné. Nous ne comptons plus à la main. Enfin, c'est très rare de compter à la main un petit peu, mais très, très peu. Précisément, là, cet écart entre notre monde contemporain et le projet opalkien, c'est quelque chose comme la peinture, avec cette idée que la peinture, c'est une affaire corporelle. Le peintre apporte son corps, disait Merleau-Ponty, c'était à propos de Cézanne, mais peu importe, c'est une très belle réflexion. Toujours, le peintre apporte son corps. Il y a du corps dans la peinture. Et le projet d'Opalka, c'est effectivement un projet incarné, un projet saisi par le corps de l'artiste qui va effectivement, à un certain moment, en souffrir aussi. Ça n'est pas si simple d'apporter son corps. Alors je dis ça parce que au début de la carrière artistique internationale de Romana Opalka, il a été un peu assimilé à l'art conceptuel. Alors pourquoi l'art conceptuel? D'abord parce qu'il y avait des nombres, sans doute, parce que c'était une idée, il a parlé d'un projet de vie, c'était aussi, il disait mon concept, hein, mon concept qu'il décrivait, donc un peu ce que je vous ai développé, mais c'était un peu plus condensé la même chose. Et donc il était notamment, dans les années 70, il était un des artistes de la galerie John Weber. John Weber, c'était la galeriste new-yorkaise qui exposait les artistes conceptuels. Il était donc, et les minimalistes aussi, il était donc dans cette mouvance, et on peut comprendre pourquoi, ça n'est pas du tout absurde, mais en même temps, ça ne permet pas entièrement de comprendre le travail de Romana Opalka, qui est tout, d'une certaine façon, sauf conceptuel. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail corporel, c'est un travail où l'artiste est debout devant son chevalet pendant des heures et il écrit à hauteur d'œil des nombres les plus petits possibles avec un pinceau numéro 0 avec de la peinture blanche sur des fonds et il continue en se dirigeant vers l'infini. Par parenthèse, je ne l'ai pas encore dit, bien que j'y ai fait allusion une ou deux fois, les tableaux sont tous appelés des détails naturellement, c'est-à-dire que l'œuvre complète, c'est une seule œuvre dont on a comme ça des détails qui sont les tableaux, et puis il y a d'autres aspects que je vais montrer, mais ce sont des détails d'un projet global. C'est aussi pour ça qu'il s'agit d'une assaise, c'est que le projet est global, complet, toute sa vie, dévolu à cela. Alors, là, je ne vous l'ai pas dit, mais je précise pour ceux que ça intéresse peut-être. Nous sommes dans le métro de Toulouse. Je crois que c'est la ligne B, en tout cas c'est la station Université Paul Sabatier, c'est-à-dire l'université scientifique de Toulouse. Et ça a été réalisé en 2007. C'est à peu près le seul projet public qui l'est réalisé, parce que le reste ne s'y prête pas du tout. Et donc quand on sort du niveau où il y a les rames de métro, on monte un escalier, on tombe dans un grand hall et on a cela qui est quand même extraordinairement impressionnant et qui donne, j'imagine, à réfléchir à plus d'un des visiteurs, parce que c'est un peu étrange, mais on finit par comprendre si on se renseigne un peu. Et c'est facile de se renseigner puisqu'il y a un cartel à côté. Alors, ça, c'est une des modifications premières, disons, de son œuvre, mais alors, sans qu'il soit extrêmement simple de dire exactement à quel moment, sans doute assez tôt dans le développement de son œuvre, en tout cas après 1968, Roman Opalka a imaginé d'adjoindre à la peinture de ces détails, d'adjoindre deux autres modes d'enregistrement. L'un, et vous l'avez entendu tout à l'heure, il dit le nombre qu'il est en train de peindre en même temps qu'il le peint. Il le dit en polonais. Et il a gardé pour cela la langue de l'enfance, disons. Et par ailleurs, et donc vous voyez l'enregistreur qui est là devant nous, devant le chevalet, on le voit assez bien, je pense, sur l'image de droite. Et c'est le même sur l'image de gauche. Et par ailleurs, à la fin de chaque séance de travail, l'idée de photographier son visage devant l'œuvre en cours à l'aide d'un dispositif fixe, si bien que toutes les photographies sont prises dans les mêmes conditions et elles doivent être à peu près identiques. Alors, comment est-ce qu'il a compris que c'était très important qu'il y ait les mêmes conditions? C'est qu'il voulait qu'au fond, on voit en même temps qu'il avance dans le temps, que le projet se développe, file vers l'infini, que lui, le peintre, il vieillit tout simplement, comme tout le monde. Et il voulait que ce vieillissement accompagne, en quelque sorte, dans un témoignage photographique, l'œuvre. Alors, là aussi, une grande contrainte, parce que ça a l'air tout bête, ça, mais très vite, il a compris que, je vais donner deux, trois exemples, que par exemple, les cheveux un peu longs, on va chez le coiffeur, hop, la photo suivante, les cheveux sont bien courts. Vous avez une chemise un peu à carreaux comme la mienne, et puis après, vous avez une chemise à gros carreaux ou au contraire, une chemise unie, etc. Et dans les photos qui se suivent et qui se ressemblent, bien entendu, parce que son visage d'une photo à l'autre, d'un jour à l'autre, n'a pas changé, ou très peu, vous ne voyez que ces détails. Et donc, il s'est dit que si on... Parce que c'est un artiste, c'est un plasticien, il est sensible à la visualité, bien entendu, donc il travaille la visualité. Et donc, il s'est dit que si on voulait véritablement qu'on voit le visage, il fallait que le plan soit toujours le même, que ce soit toujours avec la même chemise ou une chemise identique. Il a donc acheté un lot considérable de chemises, avec une petite chaîne qu'il a, qui soit toujours posée exactement au même endroit. Et ça l'a contraint à surveiller la longueur de ses cheveux pour qu'il y ait le moins possible, et si possible pas, de variations, en tout cas extrêmement peu. Le tout... On le voit pas très bien là, sur l'image, mais si je vous explique, vous allez le repérer. Le tout en se regardant avec un appareil réflexe, en regardant l'image du réflexe dans un rétroviseur. Et donc, il contrôle le cadrage. Donc, il voit s'il est juste où il faut. Bon, ça n'est pas beaucoup de recul, mais enfin, il contrôle le cadrage. Et quand il appuie sur le fil souple qui permet le déclencheur, qui permet de prendre véritablement photographie, il s'efforce d'avoir la physionomie la plus neutre possible. Pas de sourire, pas non plus de tristesse extrême, etc. D'être le plus impassible pour que finalement ce soit seulement la trace du temps, ou si possible seulement la trace du temps qui soit repérable. Et alors, La numération, c'est aussi le témoignage audible de ce qui est lisible. Et après, il va accentuer cet aspect des choses parce qu'il va imaginer que, et on va y venir dans deux minutes, mais après avoir entendu un extrait sonore, il va imaginer que à un certain moment, on ne pourra plus lire. Et par conséquent, on saura qu'il a peint parce qu'il aura dit les nombres qu'il a peints pendant qu'il les peignait. Et donc, franchement, s'il avait triché, ça n'a tellement aucun sens que seul le son attestera, ou presque attestera, qu'il a véritablement peint quand il imagine de peindre blanc sur blanc. Mais je vais y revenir dans un instant. Alors, il y a d'autres passages, évidemment, qui sont extrêmement importants. Je vous ai dit les 2, 2, 3, 3, etc. Mais évidemment, il y a le passage des millions, atteindre un premier million. Et puis ensuite, quand on a atteint le premier million, à l'horizon, assez loin, passer un deuxième million, puis un troisième. Alors, il y a toujours eu des événements au moment du passage du million. Par exemple, quand il a passé le premier, il était toujours en Pologne. Il a envoyé un télégramme un peu dans le monde entier en disant « J'ai franchi le million, j'ai passé le million ». Et là, quand il a réalisé le passage des 2 à 3 millions, il a eu l'opportunité de réaliser un livre avec un disque vinyle que vous voyez là, un livre sans commentaire, avec juste son projet, l'infographie du moment de ce passage des 2 à 3 millions et un enregistrement donc sonore de ces 2 à 3 millions. Alors moi, c'est un peu compliqué de ce disque vinyle de vous le faire entendre pour des raisons techniques. Donc j'ai choisi un autre passage que je vais vous faire entendre. Mais avant, je voudrais dire quand même que le passage du premier million, c'était en 60. Alors les dates, les historiens peuvent se chamailler un peu. Enfin, à mon avis, c'était en 73. 1973, donc c'était, bon, si c'est 72, ça fait 7 ans, sinon ça fait 8, enfin, c'est par là. Donc, environ 7, entre 7 et 8 ans pour atteindre un million. Et donc, après, il va continuer assez longtemps sur ce rythme, et puis, à un certain moment, ça va véritablement se ralentir, et notamment après 1995, quand il va franchir le passage des 4 millions aux 5 millions, qui va rentrer dans les 5 millions, et en fait, Roman Opalka n'atteindra jamais les 6, encore moins les 7, mais les 6 millions. Et donc, je vais vous faire entendre un extrait de ce passage du 4 à 5 millions, donc ça sera en polonais, mais je vous demande d'être attentif au rythme, parce qu'il faut imaginer Roman Opalka en train de peindre. Donc, il dit les nombres pendant qu'il peint. 4 999 998 et puis 99. 4 099 et puis ensuite, vous allez avoir 5. Roman Opalka peint les zéros des 5 millions. Et quand il arrive au dernier million, donc 5 millions, puis 5, les zéros, millions, 1, jeden en polonais, 5 millions, etc. Et donc évidemment, pour l'artiste, et si on rentre dans cette histoire, si on accepte de rentrer dans cette histoire, l'émotion est considérable et bien entendu, Roman Opalka s'efforce, on n'en entend rien, mais il n'empêche que c'est là pour nous. Ce sont des témoignages que je crois assez forts.
4 milioni 990 998 8 4 miliony 999 5. Milionów. 5. Milionów. 1. Pięć. Milionów. 2.
Évidemment, Roman Opalka continue comme ça pendant toute la séance. Ce sont des séances, il sait quand il va arriver à ce moment-là, ce sont des séances intenses. Évidemment, il ne va pas s'arrêter à ce moment-là, il faut au contraire qu'il continue encore une ou deux lignes comme ça pour que les choses prennent leur place. Alors, le changement, la modification ou l'inflexion, ça serait un mot plus juste, hein, parce que fondamentalement, le projet reste ce qu'il est. Le plus considérable dans son œuvre, c'est autour de 1972, 1973, difficile de dire exactement à quel moment. En tout cas, au moment du passage du premier million, Roman Opalka a décidé qu'il irait vers le blanc. Et donc, il finirait par peindre blanc sur blanc. Alors, le premier détail était noir, et donc les nombres en blanc. Puis, il a peint... je passe quelques fantaisies colorées. Il voulait que ce soit encore plus difficile. Donc, évidemment, vert sur rouge. Enfin, bon, il serait devenu... il serait abîmé les yeux très rapidement. Et du coup, c'était peut-être pas la meilleure idée possible pour mener son œuvre. Et donc... À ce moment-là, il décide qu'il va peindre sur des fonds gris assez foncés. Et puis, donc, en 1972 ou 1973, il décide qu'il va aller vers ce blanc sur blanc et il imagine un protocole assez simple en faisant un calcul pour voir, comme ça, c'est un peintre, il sait faire les choses et il se dit que s'il ajoute au gris de fond dont il a une certaine quantité, ce gris moyen qu'il utilise, s'il ajoute 1% de blanc, et pour chaque fond, encore 1%, puis encore 1%, alors, plus ou moins à l'âge où raisonnablement on prend la retraite, âge que je ne préciserai pas, bien entendu, il peindra effectivement à ce moment-là en blanc sur blanc. Et donc, d'une certaine façon, pensait-il alors, son œuvre serait... terminé, ce qui n'empêcherait pas de continuer. Au fond, comme beaucoup de retraités continuent encore, bien que la retraite soit là. Donc il va aller vers une sorte de monochromie. Alors là, il faut aussi revenir un peu sur l'histoire. Dans les années 70, la monochromie est très présente chez les artistes. Notamment, puisque j'ai parlé de la galerie new-yorkaise John Weber, il y a un artiste qui peint blanc sur blanc, qui est Robert Reimann. Mais simplement, Robert Reimann, il peint blanc sur blanc. Roman Opalka, lui, pense arriver blanc un jour. Et il va nommer ce quasi-monochrome blanc sur blanc un blanc mérité. Il y a tout un aspect très volontairement moral dans son affaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans des fantaisies artistiques, esthétiques. On n'est pas du tout dans l'esthétisation du monde, mais on est au contraire dans cette incarnation qui fait qu'à un moment, il sera autorisé à peindre blanc sur blanc, ce qui est à la fois la splendeur absolue à ses yeux, pense-t-il, et en même temps, évidemment, c'est extraordinairement difficile, et c'est pour ça que je vous l'ai montré, la peignant en effet blanc sur blanc. Et c'est un effort tout à fait considérable, ce qui fait que ça s'est beaucoup ralenti. La production d'un tableau prenait beaucoup plus de temps, et c'était beaucoup plus périlleux. Alors je vous montre là, à l'écran, des sortes de témoignages de ces fonds qu'il a, en quelque sorte, archivés, comme ça, sur des... C'était en France qu'il a fait ça. C'était ces fonds, donc, et vous voyez donc entre les gris et les gris très très clairs sur lesquels on peut encore lire les noms, mais enfin très peu, vous voyez une différence tout à fait considérable, mais vous voyez aussi qu'entre deux fonds, la différence est infime. Hein, donc, entre deux peintures qui se suivent, il y a très peu de différence. Il se trouve que Roman Opalka ne peignait pas le fond d'une toile seule, il peignait plusieurs fonds en avance. Donc, quand il peignait des fonds, il en peignait plusieurs, entre 5 et 10, enfin peu importe, mais il en peignait au moins 5 comme ça. Et donc, il reste, après la toile qu'il a laissée dans un état d'inachèvement définitif, il reste des toiles avec le fond. J'ai vu une de ces toiles. Et effectivement, c'est absolument vertigineux. Pour moi, c'est quand on se pose devant cette toile et qu'on imagine qu'on va commencer tout en haut à peindre en blanc dessus, c'est vraiment un Himalaya. C'est terrifiant, tout simplement. Et il faut vraiment une puissance de caractère inouïe pour mener un tel projet en dépit de tout. Et donc, il fait ce travail, et je vais vous le montrer, ce deuxième extrait de film que je vais vous passer, comme ça, un petit moment où on le voit peignant avec ce pinceau numéro 0 et les nombres les plus petits possibles, de façon à ce qu'il y en ait le plus possible, mais petit, mais restant lisible. Hein, son critère, c'était que les deux boucles du 8, il reste au centre le petit vide qui fait qu'on identifie le 8. Donc, il avait fait des essais, bien entendu. Enfin, bon, un artiste extrêmement attentif à ce qu'il fait. Donc, voilà encore un petit extrait du film de Didier Morin, Roman Opalka, en 2011, au travail. Alors, comme vous avez pu le constater, on voit un petit peu quand il est en train de peindre, mais on voit extrêmement peu, et surtout ça disparaît. On voit parce que c'est brillant, parce que la peinture n'a pas séché. Dès qu'elle sèche, on voit un petit peu quand même. Hein, il y a une différence d'épaisseur, etc. Ça reste dans le visible. Même le blanc sur blanc demeure visible et lisible. Mais enfin, quand même extrêmement peu. Et on voit Roman Opalka cherchant un peu pour... Parce que naturellement, il se guide sur la ligne du dessus. Au départ, il se guide sur le haut du tableau, puis sur la ligne du dessus. Et puis, voilà. Il y a d'ailleurs ce problème que je n'ai pas évoqué de terminer tout à fait à la fin, en bas... Il y a droite avec un nombre complet qui ne coupe pas. Et donc là, il joue avec... Bon, c'est un artiste, il sait faire ça. Il sait faire ça. Donc dans les deux, trois lignes qui précèdent, il va jouer un peu pour arriver à... Alors, il avait une image que je trouvais extrêmement belle à propos de ça. Il disait, ah oui, j'ai piloté des planeurs. Quand j'étais jeune, j'ai fait du planeur. Et c'est exactement la même chose que de repérer le champ de cale et puis on navigue avec les courants, hop, juste pour se poser juste comme il faut. Là, bon, voilà, c'est exactement ça. Alors, là, je vous montre la dernière grande innovation à l'intérieur du projet qui reste le projet de vie de Roman Opalka, projet de vie et projet artistique, ce sont les cartes de voyage. Et ça nous indique effectivement la dimension performée du travail de Roman Opalka. Parce que quand il a commencé dans les années 60, j'ai fait allusion par exemple Tadeusz Kantor. En Pologne, il y a déjà ce qu'on va appeler un tout petit peu plus tard, c'est plutôt fin des années 60, début des années 70, des performances ou des actions, hein, pensons les actionnistes, etc., d'un point de vue artistique. Mais ce que disait Roman Opalka, c'est que ce sont des performeurs qui ont des choses tout à fait estimables éventuellement, mais quand ils ont fini, ben voilà, on a fini. Est-ce que moi, non, je veux que ça soit l'ensemble de ma vie qui soit une performance complète. Et donc, il commence à voyager, à être invité, à avoir des sessions d'enseignement, bon, ce qui lui permet aussi de sortir tout simplement du pays et du coup de rencontrer un autre public, de pouvoir exposer en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, comme je vous ai dit. Et donc, il a senti ce danger de quitter l'atelier parce que, bon, de temps à autre, ça suffit quand même. De quitter l'atelier un peu trop facilement pour se libérer du projet. Et donc, il a estimé que ça n'était pas tout à fait convenable de faire cela. Et par conséquent, il imaginait de poursuivre quand il était en voyage. Alors, pas en voyage de 15 jours, bien sûr, mais par exemple, sur une session d'enseignement de 4 mois, oui. De poursuivre le comptage de 1 à l'infini sur ce qu'il appelait des cartes de voyage, c'est-à-dire des feuilles de ce format-là, à quelque chose près. C'est-à-dire des feuilles de papier, et donc de poursuivre au rotring, hein, à l'encre de Chine. Et donc, ça imposait là aussi de terminer un détail peint, donc d'avoir l'idée de terminer avant de pouvoir partir pour quelques temps, quelques mois. Et puis, le dernier nombre peint, il commençait avec le nombre suivant, même principe, tout à fait en haut de la page, à gauche, et puis une feuille, deux feuilles, trois feuilles, etc., jusqu'à ce qu'il rentre à l'atelier. Et à ce moment-là, on termine la carte de voyage, et puis on reprend un nouveau détail peint. Voilà. Et donc, comme ça, le travail ne s'interrompt pas ou s'interrompt extrêmement peu. Alors, je vous montre aussi une photographie qui permet de voir un petit peu des cartes de voyage exposées, donc la dimension de ces cartes de voyage, ce sont des choses assez modestes, toujours donc en noir sur blanc, encre de Chine noir sur blanc. Et puis, à un certain moment, Roman Opalka a cessé de réaliser ses cartes de voyage, d'abord parce qu'il était plus installé peut-être, il était déjà en France à ce moment-là, parce qu'il a terminé sa vie en France. Et aussi et surtout parce que il ne voulait pas que cette œuvre immense dans le temps, enfin le temps d'une vie, c'est à la fois peu mais beaucoup, beaucoup surtout pour lui, s'acheva sur un papier, un bout de papier. Il voulait absolument au fond que ça se termine sur une toile. Et par conséquent, cette ultime toile est à la fois inachevée et en même temps achève l'œuvre de Roman Opalka. Et donc, il tenait absolument à cela. Donc, il y avait aussi cette idée, donc il a arrêté les cartes de voyage, et il y avait cette idée aussi, quand il terminait un détail peint, dans la même séance, aussitôt, de commencer un autre pour qu'il n'y ait pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver, vous sortez déjeuner et vous êtes fauché par une voiture, pour que ça n'arrive pas. Il voulait toujours un détail était en cours. Voilà, il y avait toujours un détail en cours. Et donc, il y a un ultime détail peint. Alors, avant de revenir à Roman Opalka et à son œuvre, à son aventure avec le temps, je vais faire une petite excursion près d'autres artistes ou d'autres praticiens qui se sont intéressés au temps, avec notamment son strict contemporain qui est Onkawara, donc artiste japonais, dont les date painting, je vous en montre une ici, peut-être je passerai sur le One Million, mais les date painting ont été commencés peu après. Mais c'est absolument sans rapport, ils étaient sans communication du tout, c'est le pur hasard, c'est l'esprit du temps, si on peut dire ça. Et le principe de ces date paintings de Onkawara, c'était de peindre la date du jour sur une toile. Donc il le peint, c'est pas au pochoir, c'est pas comme ça. Alors, bon, là c'est rouge, mais c'est souvent noir et peint en blanc ou c'est d'autres couleurs de le peindre. Et s'il n'avait pas terminé la peinture de la date sur la toile, avec toujours le même protocole au milieu, bien visible, etc. Enfin, ce que vous voyez, s'il n'avait pas terminé, alors il détruisait la toile. Voilà, tout simplement. Et donc, il y a une idée comme ça aussi de quelque chose qui est le temps, mais le sien. Et pour compléter, Onkawara faisait fabriquer des boîtes en carton à la dimension des toiles, qui sont de dimensions variables, selon aussi les lieux dans lesquels il était, etc. Il avait d'autres pratiques, envoyer des télégrammes, par exemple, « je suis toujours vivant » ou des choses de ce genre, ou « ce matin, je me suis levé à telle heure ». Donc, selon les lieux auxquels il était, un journal du jour et de poser la page dans la boîte en carton qui accueille la date peinte de ce jour. Alors, ces deux artistes sont un peu comme ça, voyageaient de concert en se regardant un peu du coin de l'œil, peut-être un peu en chien de faïence de temps à autre, mais enfin. Ça prouve en tout cas que la préoccupation du temps était extrêmement présente dans ces années, à la fois où la modernité s'achevait et où l'art contemporain commençait, avec cet emballement de l'art contemporain. Et puis je vais vous en montrer un autre, hein, qui permettra d'évoquer un autre souvenir de Roman Opalka, qui est beaucoup plus tragique et qui n'est pas tout à fait artistique. Enfin, ça dépend comment on voit les choses. Disons que c'est un artiste qu'on pourrait classer dans la catégorie de l'art brut. Que pour ma part, j'ai vu cette œuvre et photographié cette œuvre-là exposée à la Maison Rouge à Paris. Et vous avez donc un artiste qui a... Un artiste, parce que quand même, il réalise beaucoup, beaucoup de dessins. Qui a donc... autour des cendres de chacun de ses parents, tracer les nombres qui correspondent au nombre de jours qu'ils ont vécu. Donc, il trace 1, 2, 3, 4, etc. Et quand il arrive à 365, alors à ce moment-là, il met la date du jour, et le mois et l'année, et le parent en question a un an, et après, il continue, 366, 300, tout ça, en spirale, tout autour, jusqu'à... évidemment, c'est réalisé par définition après la mort. Et donc, on a, sous forme de numération, le compte exact et précis, et fait à la main, et pas justement juste dire le dernier, de la vie de chacun de ses deux parents. Alors, c'est un projet assez limite par rapport au monde de l'art, comme je vous l'ai dit, peut-être aussi limite par rapport à d'autres choses. Et ça me permet de... d'évoquer une réflexion de Roman Opalka tout au début que j'avais rencontré l'artiste, souhaitant comprendre son œuvre, j'avais demandé à l'interroger, à le voir et à l'interroger. Je croyais alors qu'il était à Varsovie. En fait, il était dans le sud de la France. Et ce jour-là, se promenant comme ça, une longue journée qu'on a passée, il m'a fait cette réflexion à laquelle j'ai souvent pensé en regardant des œuvres d'artistes. Vous savez, peut-être que s'il n'y avait pas l'art, alors je serais considéré seulement comme un fou qui compte. C'est une réflexion puissante, à mon avis. Et là, on est... enfin, voilà. Et un peu dans ces choses-là. Ça montre aussi une grande lucidité, évidemment, de l'artiste qui sait exactement ce qu'il en est, de ce qu'on peut penser de son travail, et qui a beaucoup tenu à en expliquer les tenants et les aboutissants, ce qui me permet de le faire assez aisément devant vous. Et puis là, je vous montre autre chose, tout à fait une sorte d'hommage, puisque ça a été réalisé après... la mort de Roman Opalka par un autre artiste, assez jeune, Yann Serrandour, qui admirait son travail. Et là, on voit justement cette différence avec ce que je disais, le peintre apporte son corps, et aujourd'hui, la machine peut générer en quelques fractions de seconde le compte exact. Et donc, atteint par le travail, le labeur, on pourrait dire, vraiment, il faudrait dire le labeur, de toute une vie par un artiste. Et ce que vous voyez là, ce sont l'ensemble des feuilles imprimées, donc d'un programme qui a été lancé par un programme informatique qui a été lancé par Yann Serrandour sur son ordinateur, de 5 607 249 A1, donc une sorte de compte à rebours. Il a pris, puisque c'était terminé, il est reparti, il a pris le compte à rebours. Le nombre en question étant celui qu'on croyait être le dernier nombre, enfin, peu importe. Il y a sans doute une erreur, il y a un petit flottement sur quel est le dernier nombre qui a été peint par Roman Opalka. C'est un peu difficile de le savoir. Alors, Yann Serrandour définit son œuvre, là, son travail, généré en moins d'une seconde. Cette transcription typographique en constitue autant la rétrospective que le catalogue inversé. Catalogue inversé ou rétrospectif de l'œuvre de Roman Opalka, assez impressionnante quand même, parce qu'il y a 499 feuilles imprimées, donc une rame, vous voyez, de 500, mais en même temps dérisoire. Enfin, c'est comme si une vie compactée, comme ça, une vie compactée en presque rien, comme ça. Et je pense que c'est, enfin, le rapport entre l'idée qu'on peut avoir des tableaux de Roman Opalka, est-ce qu'on voit là réunis sur un mur, c'est aussi à la Maison Rouge par parenthèse, mais enfin bon, peu importe, c'est pour d'autres raisons, permet de bien saisir cet écart absolument abyssal qu'il y a entre ce que nous permettent les machines, et nous croyons que grosso modo c'est la même chose, c'est nous, puisque finalement on compte, et ce qui survient quand nous l'effectuons réellement nous-mêmes au fil des jours. Alors, évidemment, on n'a pas attendu du tout l'art contemporain pour s'intéresser autant, c'est même au contraire un très vieux sujet, une sorte de poncif magnifique, et j'ai aimé l'idée de vous présenter cette ronde des heures, parce qu'il y a quelque chose de frais et de juvénile, et puis en même temps, vous avez quand même le vieillard temps, qui est, vous savez, le vieillard dans l'iconographie traditionnelle, le temps est représenté par un vieillard, souvent un vieillard qui a une faux. On a la fraîcheur des jeunes filles, tout ça tourne, et en même temps, le vieillard est là, qui lui demeure. Et puis à côté, vous avez une sorte de temps plutôt salvateur, puisque c'est une gravure d'après un tableau. Je vous ai montré la gravure par pure coquetterie plutôt que le tableau, pour changer un peu. C'était intéressant aussi. Ça prouve aussi que le tableau avait eu du succès. Donc c'est Audran qui a fait cette gravure d'après un tableau de Poussin, qu'il avait réalisé pour Richelieu pendant son séjour à Paris. Donc on est en 1640 ou 41. Et le tableau, et donc la gravure, le temps soustrait la vérité aux atteintes de l'envie et de la discorde. Donc la discorde qui a ses cheveux en serpent, etc. Donc là c'est vraiment un temps utile. C'est un temps qui sert, qui sauve. C'est pas le vieillard temps mortifère. Et donc je trouvais que c'était intéressant aussi qu'il y ait ces deux notions comme ça du temps, le temps qui abîme, mais au fond là c'est la postérité heureuse. C'est la gloire pour l'éternité, pour l'avenir. Alors particulièrement évidemment dans le monde de l'art moderne, tout ça était important puisque beaucoup d'artistes ont parié sur l'avenir. Je ne suis pas très bien compris, éventuellement pas du tout reconnu de mon vivant, mais voilà, l'avenir jugera. Et la vérité, donc c'est très bien. D'ailleurs, par parenthèse, la faux du vieillard temps dans ce tableau et cette gravure, ce tableau de Poussin, cette gravure de Vendre, elle est en quelque sorte euphémisée par une faucille. Alors la faucille, ce n'est pas tout à fait la faux, Fossi, c'est, enfin, bon, c'est aussi le geste comme ça du moissonneur heureux, etc. C'est pas la faute de la mort qui vous fauche. Et puis, je ne vais pas vous infliger une réflexion philosophique sur le temps, d'abord, parce que une conférence n'y suffirait évidemment pas, et puis peut-être je n'aurais pas l'audace de m'y risquer. Mais enfin, j'étais très intéressé par cette représentation, si on peut dire, inhabituelle, liée à cette horloge, avec un cadran horizontal. Et donc, nous avons, au lieu, comme la ronde des heures, qui est nos montres, etc. Alors, j'aurais pu aussi, aujourd'hui, il y a le digital, je sais, les noms, etc. Mais enfin, bon, là, je me suis cantonné à la tradition. Il n'y avait pas du digital quand Romain Napalka a commencé. Et donc, ce temps comme ça, qui se déroule comme ça de façon en quelque sorte linéaire, comme ça. Hein. C'est pas le temps qui revient. C'est cette idée, en effet, de la flèche du temps. Alors bon, bien sûr, je sais que là, forcément, le curseur va revenir à zéro, mais quand même, il progresse. Et idéalement, il peut progresser éternellement. C'est-à-dire qu'on peut imaginer comme ça. C'est exactement le projet d'Opalka, en vérité, que vous avez là. Où c'est très proche du projet d'Opalka. Donc je trouvais que c'était intéressant. Et du coup, je pensais aussi qu'on est toujours là dans du temps compté, et que, même si j'ai dit que je n'allais pas entamer une réflexion sur le temps, mais quand même, je ne peux pas résister à cette idée de faire intervenir Bergson dans ce contexte, parce que, Pour l'homme, le temps est une abstraction. C'est le temps compté, comme ça, c'est le temps de la thermodynamique. Hein. C'est un temps qui n'est pas du tout le temps vécu. C'est un temps qui est en quelque sorte homogène, sécable. Et sécable, justement, comme le mouvement de la flèche qui n'atteindrait pas sa cible, selon le paradoxe célèbre. Et c'est à cela que la réflexion de Bergson s'est opposée, en introduisant cette notion de durée. Le temps, ça n'est pas sécable, ça n'est pas bientable, c'est de la durée. Cette durée est en plus malléable, en quelque sorte. Il y a des accélérations, des ralentissements. Et puis le temps humain, c'est un temps aussi qui n'est pas seulement le présent. Le passé est toujours présent dans l'instant. Et le futur est toujours aussi un peu déjà projeté. Enfin, il y a toutes sortes de collusions temporelles qui s'opèrent. Et donc, le projet de Roman Opalka est un projet simple, en quelque sorte. C'est un projet, on pourrait dire, didactique. Il essaie de nous faire comprendre quelque chose qui est plutôt du côté des horloges, du temps compté, plutôt du côté d'une certaine physique, plutôt que du temps psychologique, du temps de la durée. Mais il n'empêche, et c'est pour ça que j'ai tenu à intervenir ce petit excursus dans mon exposé là, il n'empêche que lui, Roman Opalka, pendant qu'il peignait, et quand nous regardons un de ses tableaux, y penser, pendant qu'il peignait, naturellement, le temps était aussi pour lui de la durée. Et par exemple, quand il y a eu ces événements en Pologne, Solidarność, etc., il pouvait à la fois peindre, il était à ce moment-là dans le sud de la France, il pouvait à la fois peindre en étant très concentré, mais néanmoins c'était la Pologne, ça le touchait, là, et il y avait une petite télévision qui donnait les nouvelles dans un coin qu'il écoutait. Et il disait, si on est peut-être très sensible, on pourrait voir de temps à autre quelque chose dans le tremblement du tracé des chiffres qui constituent les nombres et qui correspondent à ça. C'est-à-dire que, évidemment, dans cette inexorable avancée vers l'infini et avancée comptée, métrée dans le temps, il y a aussi présente, pour l'artiste en tout cas, et donc pour nous, cette durée qui est tout sauf homogène. Alors, pour terminer avec les films dont je vous passe des extraits, donc je vais vous passer un extrait de cette toute dernière séance qui, par une sorte de hasard objectif, puisque ce n'était pas du tout le projet du cinéaste, a été photographié, puisque, encore une fois, quand le cinéaste filmait, personne ne pouvait penser que ça serait... Que ce détail peint serait inachevé et donc que ça serait le dernier. Donc voici le dernier moment de cette donc toute dernière séance que je vous montre maintenant. Voilà, nous étions donc le 20 juin et naturellement, il se trouve que Roman Opalka a quitté son atelier, devait partir en voyage et aurait dû revenir, il n'y est jamais retourné. Opalka est mort en Italie au mois d'août suivant de cette année. Voilà, donc son œuvre est définitivement achevée, laissée dans un état d'inachèvement définitif, mais elle est tout à fait achevée. Et ce qui nous reste de lui, c'est évidemment d'abord un certain nombre de témoignages. Par exemple, il a gardé les pinceaux, une sorte de petite relique, si vous voulez, il a gardé les pinceaux. Sur lesquels vous pouvez lire, sur les manches desquels vous pouvez lire les nombres, les deux nombres, le premier et le dernier, qui ont permis de peindre. Parce qu'un pinceau, ça s'use. La toile, c'est toujours un tout petit peu rugueux et ça s'use. Alors, ce sont des petits pinceaux, donc il y a beaucoup de petits pinceaux qui sont là. Et donc, on a comme ça toutes sortes de scories, en quelque sorte, de son œuvre, mais qui sont rattachées quand même à son œuvre. Et quand il s'agit d'un projet de vie, tout fait œuvre d'une certaine manière. Mais il n'empêche que l'essentiel, ce sont tout de même les témoignages sonores et puis les détails peints et les photographies. Et je vous montre là une exposition qui s'est tenue peu de temps, puisqu'il y a peu de temps et qui s'était assez peu de temps après la disparition de Roman Opalka. Une exposition qui s'est tenue à Londres. Il y a eu en même temps, dans la même galerie, une exposition à New York. Et vous aviez dans ces galeries des portraits photographiques qui sont des détails photographiques. Alors, je n'ai pas dit non plus que toutes les photographies ne deviennent pas des œuvres, en quelque sorte, parce que Roman Opalka, avec beaucoup d'attention, repérait que celles qui avaient des caractéristiques de neutralité qui lui convenaient, dès qu'il y avait une perturbation, alors bon, elles sont là, toutes les photographies sont là, elles sont sur des planches contact, mais celles dont il faisait réaliser des tirages pour pouvoir les exposer choisies, hein, quelque sorte par lui. Alors, quelquefois elles se suivent, quelquefois moins, donc là vous en voyez avec des époques différentes, on ne voit pas très très bien de loin. loin, mais enfin, ce sont des époques différentes. Donc, il nous reste ces photographies qui sont un témoignage tout à fait extraordinaire, parce que c'est le passage du temps sur le visage d'un être humain pendant, enfin, disons, de 1968-69 jusqu'à 2011. Et puis, il nous reste évidemment ces détails peints. En tout, Roman Opalka a peint 357 détails. Alors, là aussi, c'est... Évidemment, je fais mon petit polonais, je compte moi-même aussi, hein, les... comme ça. Mais c'est beaucoup, c'est parce qu'il est arrivé à un nombre, bon, enfin, en tout cas, au-delà des 5 600 000. Mais si vous prenez n'importe quel artiste qui a eu une durée de vie suffisante pour bien développer son œuvre, c'est absolument dérisoire. Évidemment, ça, c'est par milliers que ça se compte, le nombre d'œuvres. Là, 357 détails peints, plus environ, c'est pas, enfin, c'est toujours un tout petit peu difficile, je ne vais pas donner un chiffre tout à fait précis, parce que quelques hésitations sur le nombre exact, plus environ 150 cartes de voyage. Alors, reste la question du dernier nombre, c'est un peu flottant. Pour ma part, lu sur le dernier détail peint par Roman Opalka, j'ai cru discerner que le dernier nombre était 5 607 283. C'est quelque chose comme ça, en tout cas, il y a un petit flottement, mais c'est quelque chose comme ça. Là aussi, c'est à la fois considérable. Pensez qu'il faut une vie pour arriver à 5 millions, alors que bien entendu, vous écrivez 5 millions en 2 secondes. C'est rien. Bon. Il faut si vous comptez 1 plus 1 plus 1, c'est ça 5 millions. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est ça compter. Si vous pensez qu'il faut une vie, on est dans quelque chose qui est vertigineux et dont Roman Opalka nous a livré un témoignage qui peut en tout cas toucher certains d'entre nous. Merci.